On a tous en tête cette image classique, presque un cliché en fait, qui est gravée dans l'imaginaire de ceux qui écoutent. C'est l'image d'un créateur furieux qui chasse les premiers humains d'un paradis verdoyant.
Ouais, à grands coups d'épée flamboyante, la scène tragique classique.
Exactement. C'est l'image d'une punition divine impitoyable, quoi. La fin abrupte d'une époque dorée. Mais et si cette scène dramatique d'expulsion n'était pas du tout une vengeance colérique ? Et si c'était plutôt, je ne sais pas, une opération de sauvetage d'urgence extrêmement sophistiquée ?
Une sorte de mesure de quarantaine radicale pour sauver l'humanité d'elle-même, en fait. C'est une grille de lecture qui, franchement, renverse complètement la perspective habituelle qu'on a sur ce texte fondateur.
Ah, totalement. Ça change la nature même du message. Et c'est exactement ce qui motive notre exploration approfondie aujourd'hui. L'idée, c'est de plonger dans les notes d'enseignement du docteur Kenneth Matthews.
C'est ça, des notes qui décortiquent vraiment l'une des histoires les plus célèbres et, paradoxalement, les plus mal comprises, le récit du Jardin d'Éden de Genèse 2 et 3.
Voilà. Et l'objectif pour nous, ce n'est vraiment pas de faire une simple lecture d'école du dimanche ou de rester à la surface, hein.
Oh non, clairement pas. On utilise ces sources de manière objective pour comprendre la mécanique profonde des relations humaines, la psychologie de la tromperie.
Ouais, et l'origine de cette notion fascinante et assez lourde qu'est le péché originel. Bon, décortiquons tout ça. Par où commence cette analyse du docteur Matthews ?
Le docteur Matthews commence son analyse par la fin du chapitre 2 de la Genèse.
D'accord, l'avant-chute, donc.
Exactement. On y décrit un environnement d'une harmonie totale. Et cette harmonie, elle est concrétisée par un concept biblique fondamental, l'idée de quitter et s'attacher.
Ah oui, le fameux verset qui dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et qu'ils deviendront une seule chair.
C'est ça.
C'est fou parce que c'est un concept qu'on entend dans presque tous les mariages modernes, sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à voir ça sous un prisme très civil. Presque comme une transaction contractuelle, tu vois.
Ouais, un contrat avec des conditions.
Voilà. On signe en papier, on établit des clauses, parfois même des contrats prénuptiaux, où on anticipe silencieusement que ça pourrait mal tourner. Mais j'ai l'impression, en lisant ces notes, qu'on est très loin de cette dynamique juridique ici.
Très, très loin.
Le texte source parle vraiment d'une fusion, comme la création d'un code source entièrement neuf, basé sur la notion d'alliance.
Et c'est une distinction vitale dans le langage de l'alliance de l'époque. Ce n'est pas un partenariat à responsabilité limitée, quoi. C'est un engagement inconditionnel pour accomplir un dessein plus grand.
Exercer une intendance commune sur le monde, c'est ça ?
Exactement. Et recevoir la bénédiction divine. D'ailleurs, le point culminant de cette harmonie parfaite est révélé au verset 25. Ils étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte.
Si on file un peu la métaphore technologique, c'est comme un système d'exploitation où il n'y a besoin d'aucun pare-feu, d'aucun cryptage de données, ni d'aucun mot de passe.
Parce qu'il n'y a aucune menace interne.
C'est ça. La nudité sans honte, ça représente l'absence totale de vulnérabilité exploitable. Il n'y a aucune peur du jugement ou du rejet, car il n'y a eu aucune transgression. C'est la transparence absolue.
Le docteur Matthews précise d'ailleurs dans ses notes que cette nudité n'a rien de pécheur dans ce contexte précis. Elle est vraiment le marqueur de la perfection relationnelle. Ils sont totalement à découvert l'un envers l'autre.
Et totalement à découvert devant le Créateur sans que ça génère la moindre anxiété.
Voilà, c'est l'état de confiance absolue.
Sauf que, et c'est là que le drame arrive, ce réseau parfaitement sécurisé va subir une brèche catastrophique. Le chapitre 3 s'ouvre et tout bascule soudainement avec l'introduction d'un nouveau paramètre, le serpent.
Ah, le serpent. Et c'est ici que l'analyse du docteur Matthews offre une comparaison historique pour nous aider à mesurer l'impact de cette éruption.
Ouais, son analogie sur les traumatismes générationnels, hein, c'est ça.
Tout à fait. Il rappelle que chaque époque est souvent définie par un traumatisme majeur, une vraie ligne de fracture. Il cite par exemple la génération marquée par l'attaque de Pearl Harbor et la Seconde Guerre mondiale.
Ou pour amener ça plus proche de nous, on pourrait penser aux attentats du 11 septembre, ou même à la récente pandémie mondiale, quoi.
Exactement. Ce sont des événements qui modifient instantanément le niveau de confiance d'une société.
C'est clair. Après le 11 septembre, l'innocence des voyages aériens a totalement disparu. Ça a été remplacé par des portiques de sécurité, une méfiance permanente. Le monde est scindé entre un avant et un après.
Eh bien, selon les notes du docteur Matthews, la chute dans la Genèse est présentée exactement comme ça, mais à une échelle cosmique.
Le traumatisme cosmique ultime.
Voilà, c'est la fracture originelle qui sépare radicalement toute l'histoire de l'existence. Le monde pré-chute, avec cette confiance parfaite, disparaît pour laisser place à un monde post-chute, défini par la peur, les relations brisées et la suspicion.
Alors, j'entends bien l'argument du traumatisme cosmique, c'est puissant. Mais il y a un élément dans ces sources qui demande vraiment clarification pour notre auditoire. On parle littéralement d'un reptile, d'un serpent qui entame une conversation.
Ouais, ça surprend toujours.
Est-ce que la démarche analytique de Matthews aborde ce serpent de manière strictement littérale, genre avec des cordes vocales biologiques, ou est-ce que les textes nous orientent plutôt vers une allégorie poétique pour décrire, je sais pas, le mal abstrait ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que le docteur Matthews refuse catégoriquement d'en faire une simple abstraction. Certains voudraient y voir juste un concept, comme on parlerait de la malice en général.
Ce qui serait plus facile à avaler pour l'esprit moderne.
Sûrement. Mais le texte biblique emploie un langage extrêmement ancré dans le réel. Le serpent est décrit comme une bête des champs que l'Éternel Dieu avait faite. Et plus tard, lors de son jugement, il lui est dit qu'il rampera tous les jours de sa vie.
Ah oui, l'expression « tous les jours de sa vie ».
Passe. Pas juste une poésie.
Donc on ne peut pas balayer ça d'un revers de main comme une métaphore, mais ça soulève un énorme problème de logique, non ? Si c'est une entité concrète avec une intelligence malveillante, est-ce qu'on parle d'un dieu rival ? Sommes-nous face à un dualisme cosmique où un dieu du bien et un dieu du mal s'affrontent à armes égales ?
Non, et c'est un point théologique crucial sur lequel la source est très claire. Il n'y a aucun dualisme.
D'accord.
Le serpent n'est pas un titan tout-puissant. Il reste une créature subordonnée. Le docteur Matthews rappelle qu'historiquement, dans la tradition judéo-chrétienne, et selon l'apôtre Paul dans l'Épître aux Volnains, ce serpent représente Satan, mais un Satan limité, qui est soumis à la souveraineté du Créateur. Il n'a pas la puissance de feu pour détruire l'univers par la force brute.
Ah, ce qui explique totalement sa méthode, en fait. S'il ne peut pas attaquer le système de front par la force, il voit utiliser l'ingénierie sociale.
Tout à fait.
L'archiptyl de la ruse, la manipulation linguistique. Il doit convaincre les administrateurs du système de lui ouvrir la porte de l'intérieur, eux-mêmes.
C'est exactement la dynamique à l'œuvre. Et la tactique du serpent repose entièrement sur une distorsion du langage.
Comment ça se passe dans le texte source ?
Initialement, la consigne divine était d'une générosité immense. Dieu dit qu'ils pourront manger de tous les arbres du jardin, avec une seule petite restriction concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et le serpent attaque directement cette générosité en la reformulant, c'est ça ?
Oui, en lisant les notes sur l'hébreu original, on découvre qu'il place la négation au tout début de sa question. Il dit un truc du genre « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres ?»
Waouh ! C'est une technique manipulatoire redoutable. Il occulte toute l'abondance infinie pour braquer un énorme projecteur aveuglant sur la seule limite qui existe.
C'est ça, il transforme la générosité en mesquinerie.
On retrouve tellement cette même mécanique de nos jours. Dans les techniques de vente agressive ou les relations toxiques, on crée artificiellement un sentiment de manque profond là où résidait l'abondance, juste pour faire passer l'autorité légitime pour un tyran, quoi.
La comparaison est très pertinente. Le serpent instille le soupçon. Mais il faut aussi noter la réaction de la femme. Dans sa réponse, elle tente de défendre la consigne divine, mais elle y ajoute un petit élément.
Elle rajoute quoi ?
Elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point.
Attends, Dieu n'a jamais parlé d'interdiction de toucher au chapitre 2. Est-ce que la femme n'est pas déjà en train de modifier le code source à ce moment-là ? C'est presque une forme de mensonge préventif, non ?
Alors, c'est une critique très répandue, surtout chez les lecteurs modernes occidentaux. On se dit qu'elle déforme déjà la vérité. Cependant, le docteur Matthews apporte ici un éclairage fondamental, issu de la culture du Proche-Orient ancien.
Ah, le contexte culturel historique.
Voilà. Pour les premiers lecteurs de ce récit, l'ajout de la femme n'était pas du tout perçu comme une falsification coupable. Il s'agissait du principe de la barrière de pureté.
Le fait de mettre une clôture autour du danger pour ne pas s'en approcher.
Précisément. L'idée antique, c'est que si une chose est impure ou mortelle, on ne s'en approche même pas. En ajoutant l'interdiction de toucher, la femme exprimait sa volonté initiale de protéger scrupuleusement la règle. C'était considéré comme une attitude très prudente et hautement louable.
Oh, d'accord. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette excellente intention va être complètement balayée par le coup de grâce du serpent. Il se sert de cette barrière pour lancer une attaque frontale, sa fameuse demi-vérité.
La pire des manipulations. Il affirme qu'ils ne mourront absolument pas, mais que leurs yeux s'ouvriront et qu'ils seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Et la tragédie absolue, c'est que sur ce point précis, ben, il ne ment pas totalement, n'est-ce pas, Evelyne ?
C'est exact. Le docteur Matthews souligne en effet que Dieu reconnaîtra plus tard qu'ils ont effectivement acquis cette connaissance. Le serpent n'a pas menti sur l'acquisition du savoir.
C'est vraiment la stratégie du contrat truffé de clauses abusives masquées par un avocat véreux.
Très bonne image.
Il leur vend l'autonomie et la connaissance, mais il omet délibérément de préciser que cette sagesse, comme elle est acquise en violant l'alliance, bah, elle va leur coûter leur innocence, leur harmonie et ultimement leur vie. Il vend le bénéfice immédiat en cachant le coût fatal à long terme.
L'acte de manger ce fruit agit alors comme un véritable cheval de Troie. Et l'analyse de Matthews met en lumière un fait très souvent ignoré ou déformé par les imaginaires populaires.
Quel fait ?
On se représente souvent la femme isolée, manipulée par le serpent, qui court ensuite trouver l'homme à l'autre bout du jardin pour lui donner le fruit.
Alors que le texte mentionne de manière très explicite que l'homme était avec elle pendant toute la durée de cet échange.
Il était juste là, oui.
Il a entendu la manipulation, la distorsion de la générosité divine, la promesse d'autonomie, et il est resté totalement silencieux.
Aucune objection.
Aucune. Il prend le fruit et le mange dans une forme de rébellion passive, mais absolue.
Et cette passivité coupable provoque l'effondrement immédiat et total de l'ordre cosmique qui avait été établi. Dans le système originel, l'ordre de création à l'aide de Dieu, qui donnait le mandat à l'homme, puis l'homme et la femme agissant en union pour dominer la création, y compris les animaux.
Et la chute inverse totalement la pyramide. C'est désormais l'animal, le serpent, qui dicte la marche à suivre à la femme qui entraîne l'homme, et l'homme qui désobéit à son créateur. Le système s'est littéralement retourné contre lui-même.
Ce retournement total nous amène à la définition théologique profonde de ce qu'est le péché originel selon les sources du docteur Matthews.
Ce n'est pas juste la première faute, c'est ça?
Exactement. Il faut dépasser l'idée réductrice qui consisterait à dire que c'est simplement le premier mauvais comportement sur la ligne du temps chronologique de l'humanité.
Si on revient à notre métaphore informatique, on ne parle pas d'un simple ralentissement passager ou d'un bug d'affichage. On parle d'un virus qui a modifié de façon permanente l'algorithme principal.
C'est ça. Le docteur Matthews insiste sur le fait que, par cet acte, les humains ne se contentent pas de commettre un péché, ils deviennent la source du péché. Leur nature même subit une mutation irréversible.
C'est comme une mutation génétique qui se transmet. Et on voit que ça se propage à une vitesse fulgurante dans le récit biblique, non ?
Oh oui, dès le chapitre suivant, le chapitre 4 de la Genèse, l'infection passe du simple vol d'un fruit à la violence la plus absolue. C'est l'histoire tragique de Caïn et Abel.
Le premier meurtre de l'histoire. Et c'est un fratricide en plus. On passe d'une désobéissance feutrée dans un jardin à un bain de sang en l'espace d'une seule génération.
Le docteur Matthews note d'ailleurs que dans la culture du Proche-Orient ancien, le meurtre d'un membre de sa propre fratrie, c'est le crime ultime.
La destruction totale de la loyauté communautaire, quoi.
Absolument. C'est la preuve accablante que la corruption n'était pas un acte isolé, mais vraiment une maladie transmissible qui s'est installée dans le cœur humain.
Mais ça soulève inévitablement la question de la transmission pour ceux qui lisent ça. Comment ce texte justifie-t-il que l'acte d'un seul couple contamine toute l'humanité derrière ?
Alors, l'analyse de Matthews fait appel ici aux écrits de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 5, en introduisant le concept de solidarité corporative.
D'accord. Et il faut admettre que pour notre esprit moderne, façonné par les philosophies des Lumières, un individualisme très fort où chacun n'est responsable que de ses propres actes, cette idée est complexe à intégrer.
C'est un véritable choc de civilisation, oui.
Se dire qu'on hérite d'une culpabilité systémique à cause d'un ancêtre lointain, ça semble presque contraire à notre notion de justice.
Je comprends. Mais dans la pensée du monde antique, la solidarité corporative était la base même du fonctionnement social. L'individu isolé, ça n'existait quasiment pas. La réalité, c'était le groupe, la tribu, la nation.
Les actions du chef engageaient tout le monde.
Exactement. Les actions du patriarche ou du roi engageaient juridiquement et spirituellement l'ensemble de la communauté. Si le chef signait un traité ou provoquait une guerre, chaque membre du peuple en subissait les conséquences légitimes. Dans cette optique théologique, Adam agit comme le représentant officiel, l'ambassadeur de toute la famille humaine.
Il a validé la mise à jour virale pour tout le réseau, en gros.
C'est tout à fait ça. Et pour prouver l'efficacité redoutable de cette solidarité corporative dans le mal, le docteur Matthews pointe la généalogie du chapitre 5 de la Genèse.
Ah oui, avec tous ces âges immenses.
Oui, On y décrit des humains vivant des centaines d'années, 930 ans pour Adam, par exemple, mais le refrain qui ponctue inexorablement chaque lignée est glaçant. Puis il mourut.
La mort régnait en maître absolu,
contaminant chaque génération, et ce, bien avant que la loi de Moïse ou le moindre code moral formel ne soit donné. La maladie était déjà dans le sang.
Mais la mécanique de cette solidarité corporative, telle qu'analysée par Paul et rapportée par Matthews, elle ne s'arrête pas au désastre, n'est-ce pas? S'il est possible qu'un seul représentant entraîne le crash complet du système, la même logique doit permettre une restauration globale via un nouveau représentant.
C'est le triomphe de l'argumentation de l'apôtre Paul. La solution est le parfait miroir du problème. Jésus-Christ est présenté comme le nouvel Adam ou le dernier Adam.
La contre-mesure.
Voilà. Là où le premier ambassadeur a entraîné la condamnation et la mort de tous ceux qui lui étaient liés par la génétique, le nouveau représentant offre la justification, la grâce et la vie éternelle à tous ceux qui lui sont unis par la foi. À une faille systémique massive, Dieu répond par un correctif spirituel infiniment plus puissant.
Cependant, avant que ce nouvel Adam ne puisse entrer en scène, le texte de la Genèse nous ramène aux conséquences immédiates dans le jardin. La faille de sécurité est découverte, le Créateur intervient et c'est l'heure du diagnostic et du jugement.
Le fameux face-à-face.
Mais en étudiant les notes de Matthews, il apparaît clairement que ce jugement divin ne ressemble en rien à une colère arbitraire ou explosive. C'est d'une symétrie poétique et d'une précision chirurgicale. C'est taillé sur mesure pour chaque partie prenante.
Chaque sentence illustre le détricotage de l'ordre parfait. Prenons le serpent d'abord.
Vas-y.
La bête qui s'est tissée au-dessus de sa condition pour manipuler la création. Son jugement est la rétrogradation la plus humiliante. Il est condamné à ramper sur son ventre et à manger la poussière.
Ce qui est d'une ironie absolument mordante quand on y pense, il a causé la ruine de l'homme, un être façonné précisément à partir de la poussière du sol, et sa punition est de consommer cette même poussière éternellement.
L'arroseur arrosé. L'homme, quant à lui, avait reçu la noble vocation d'intendant. Il devait cultiver le sol en parfaite harmonie.
Et le jugement ne révoque pas le travail, mais il le corrompt, c'est ça?
Exactement. Le sol se rebellera contre lui. L'intendant devra arracher sa subsistance à la terre, luttant contre les ronces au prix de la douleur et de la sueur, jusqu'au jour où ce même sol le reprendra. La poussière retourne à la poussière.
Le gestionnaire devient le captif de son propre domaine. C'est fort. Et pour la femme, les conséquences altèrent ses prérogatives fondamentales, la vie et les relations. Le texte annonce une augmentation de la douleur liée à l'enfantement, et l'introduction d'une tension, d'une lutte de pouvoir et de soumission au sein de son couple, là où il n'y avait qu'une unité fusionnelle avant.
C'est une lecture particulièrement sombre. Mais au milieu de ça, le docteur Matthews insiste sur une subtilité qui change complètement la donne.
Laquelle ?
Il met en exergue le fait que malgré l'annonce de la souffrance, la promesse que la femme portera des enfants démontre que la bénédiction divine originelle, celle de procréer et de remplir la terre, n'est pas détruite.
Ah, Dieu n'a pas mis fin à l'expérience humaine.
Non, la vie continuera de jaillir, même au milieu des ronces et de la douleur. C'est l'espoir qui subsiste, au sein même du jugement.
Et cet espoir nous conduit directement à l'image la plus dramatique, celle dont on parlait au tout début. L'expulsion.
Si on relie cela à la vue d'ensemble, la scène finale est bouleversante. L'homme et la femme sont mis à la porte d'Éden. Le chemin du retour vers l'arbre de vie est bloqué par des chérubins, des créatures célestes redoutables et par une épée flamboyante tournoyante. La séparation est actée.
C'est l'exil dans ce qu'il y a de plus définitif et de plus terrifiant. La perte totale d'accès à la présence divine non voilée. C'est ce qu'on se dit en première lecture, en tout cas.
Tout le monde le lit comme ça.
Mais c'est là que l'analyse de la source m'a offert une révélation stupéfiante. Quand on écoute les mots précis du Créateur justifiant cette expulsion, la raison évoquée n'est pas une sentence de bannissement haineux.
Non, pas du tout.
Le texte dit qu'il faut empêcher l'homme d'avancer la main, de prendre du fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Cet exil n'est pas une punition vengeresse, c'est un acte de miséricorde d'une profondeur inouïe.
C'est le grand paradoxe de la quarantaine divine dont on parlait. Si l'humanité qui était fraîchement infectée par le virus de la rébellion, de la honte et du péché avait eu accès à l'arbre de vie, Elle aurait immortalisé cet état de corruption.
Ah, les relations brisées, la méfiance, la maladie de l'âme, tout ça se serait figé pour l'éternité.
Ils auraient été bloqués pour toujours dans un système défaillant, sans aucune possibilité de redémarrage.
La mort physique et l'exil deviennent donc des barrières de protection indispensables. Elles limitent le mal dans le temps pour laisser la place au processus de rédemption historique et à la venue de ce nouvel Adam dont on a parlé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Pourquoi consacrer une exploration entière à des notes sur un texte aussi ancien ?
Parce que les travaux du docteur Matthews démontrent que la Genèse ne se limite pas à un conte sur un fruit interdit. C'est une cartographie détaillée de notre condition humaine.
C'est clair.
Comprendre les stratégies de tromperie du serpent, par exemple, ça nous aide énormément aujourd'hui. Savoir reconnaître cette tactique qui consiste à occulter le positif pour amplifier une restriction perçue, ça permet de décrypter bien des discours.
Que ce soit les idéologies toxiques modernes qui promettent l'indépendance en cachant le coût réel, ou juste nos propres insatisfactions face à l'abondance.
Exactement. Et par ailleurs, assimiler la solidarité corporative d'Adam nous force à regarder en face une vérité incontournable. L'illusion de l'individu isolé n'existe pas. Nos compromissions finissent inévitablement par infecter le tissu de nos communautés.
Le diagnostic de notre nature est peut-être sévère. L'architecture du système original est bien endommagée. Mais le texte ne s'arrête pas au constat clinique. Il trace la voie vers un traitement. Et pour refermer cette plongée au cœur du sujet, il y a une réflexion qui découle directement de cette histoire d'arbre de vie barricadé et qui mérite qu'on s'y attarde longuement.
Je t'écoute.
Mieux voir que cet exil douloureux d'Éden, cet enfermement apparent dans un monde de lutte et de peine, s'est avéré être en fait une gigantesque mesure de protection invisible. Un dispositif conçu pour empêcher une situation toxique de devenir permanente.
Oui.
On peut dès lors légitimement se demander, pour tous ceux qui écoutent, en observant le cours de l'histoire humaine, ou même les trajectoires de nos vies personnelles, quels autres échecs cuisants, quelles portes brutalement refermées, ou quels exils que l'on juge initialement comme des tragédies insurmontables,
pourraient en réalité n'être que des dispositifs de sécurité discrets ?
Exactement. Des barrages placés là expressément pour nous empêcher de nous figer éternellement dans des états ou des relations qui nous détruiraient à petit feu. C'est une perspective qui retourne complètement l'interprétation des épreuves.
Une réflexion très profonde à garder dans un coin de l'esprit.
Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie avec nous et à très bientôt pour poursuivre nos analyses.